Bien, amis d'agents dans l'équipe, merci de votre disponibilité que vous attachez à cette émission qui reçoit M. Valentin Moubaké de l'IDPS, le conseil politique de Félicité Kédi, notre Néni Mourania, il est membre du conseil national du PPG. Ensemble avec vous, nous allons réfléchir sur cette thématique. La République démocratique du Congo est mal soutenue sur le plan de la gouvernance par les organisations internationales. Comment réagissez-vous à ce classement, Moubaké?
Bien. Et commençons par définir la gouvernance. La gouvernance peut se définir pour l'UDPS par l'observance d'un ensemble de règles et de comportements utiles à l'administration ou à la gestion d'un organisme ou d'un pays, et c'est le cas qui nous concerne. Il faut tout de suite dire que cette observance de règles et de comportements est réalisée dans le but d'assurer le bien-être de la population. Et pour souligner cet aspect de la question, on parle et on exige qu'il y ait bonne gouvernance. Mais en ce qui concerne la République démocratique du Congo, particulièrement le pouvoir en place, que le co-débatteur représente ici pour le compte du PPRD, j'imagine, il y a plutôt une mauvaise gouvernance. Vous avez relevé un rapport de classement, de mauvais classement de la République démocratique du Congo en la matière. Je vous citerai aussi le rapport Doing Business qui nous classe avant-dernier, il me semble, avant la Somalie, dans le cadre du climat des affaires au niveau du continent africain. Ils ont relevé le rapport du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, relatif à l'indice du développement humain, qui nous classe, il me semble, 173e sur 175e pays. Ils ont relevé les différents rapports de Human Rights Watch et de Amnesty International relatif aux droits de l'homme, où le Congo est pointé comme champion en matière de violation des droits de l'homme. Et vous connaissez, pour les cas qui nous concernent particulièrement, l'assassinat des défenseurs des droits de l'homme, Kébéa, des journalistes, Maïché, le couple Ngikié, Tungulu, Arma Tungulu, qui a été sauvagement abattu ici, à Kinshasa, et pour lequel il n'y a jamais eu de procès. Je relèverai d'ailleurs dans ce même dossier un homme recherché par la Cour pénale internationale, recherché avec un mandat émis à son encontre, Bosco Ntaganda, pour lequel le candidat Joseph Kabila a dit publiquement qu'il ne livrera pas, il ne va pas le livrer pour besoin de la paix. C'est comme si la justice était l'ennemi de la paix. C'est la première fois que nous avons entendu cette phrase-là. Et encore que nous n'avons toujours pas la paix au Nord Kivu, où règne ce monsieur-là qui a des crimes odieux à sa charge. Ils ont relevé le rapport de la Banque mondiale relatif à la mégestion des finances publiques, le tout dernier rapport. Et vous savez que c'est depuis une semaine que le Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale ont été congédiés, incapables de pouvoir examiner le budget. Parce que là-bas, en fait, la réalité, c'est quoi? Ils exigent les paiements, leurs émoluments, avant de faire le travail. Et si vous savez que, en matière de finances publiques, l'État congolais, pour ce qui est du budget, n'a jamais exécuté un budget au-delà de 30% de ses prévisions, vous comprenez ce que ça veut dire, la mégestion dans ce pays. Bref, nous sommes classés parmi les 10 pays les plus corrompus au monde, Or, pour avoir cette performance la plus enviable, il faut que cette corruption soit non seulement généralisée, mais aussi institutionnalisée. Cela veut dire que c'est une corruption qui va du sommet de l'État au plus bas de l'étage de notre société. Voilà le tableau sombre de la mauvaise gouvernance, et nous avons d'autres exemples s'agissant des secteurs que nous connaissons dans ce pays.
Nous allons devoir céder le micro à notre invité, Maître Néni Mourania. Vous avez la parole. Et merci bien. Bon, je voudrais tout de suite vous dire que plutôt que de procéder par une définition théorique de la gouvernance, il faudrait peut-être tabler sur des paramètres, des fondamentaux de la gouvernance. Je pense que c'est un concept qui renvoie d'abord à l'existence d'un État, ensuite d'un système politique fiable, crédible, avec des espaces politiques, n'est-ce pas, qui facilitent la participation politique. Et puis il y a l'élément de la légitimité du cadre politique, légitimité du cadre électoral, l'élément de l'existence d'un mécanisme de reddition des comptes, évidemment le respect des droits de l'homme. Ça, c'est un ensemble de fondamentaux sur le plan politique. Évidemment, sur le plan économique, vous avez la tenue du cadre macroéconomique avec toutes ses conséquences. Alors, ceci dit, je voudrais d'abord commencer par relever donc que aujourd'hui, on peut parler des rapports qui sont élaborés dans des bureaux climatisés à gauche et à droite, mais sans aucune référence à la réalité historique du pays. Quand le président Joseph Kabila a pris ce pays, il n'existait que des noms. Il était quasi rayé de la carte. Donc, il s'est employé d'abord à recréer l'État, à refonder l'État. Et aujourd'hui, évidemment, nous pouvons maintenant parler de la gouvernance au sein d'un État qui existe. C'est un État aussi, évidemment, qui n'avait pas un système politique fiable. Nous y avons travaillé à la faveur des élections de 2006. La démocratie est en train de se cristalliser dans ce pays. Et c'est ce qui libère des espaces de libre expression, comme nous le faisons maintenant. Je pense aussi à la légitimité du cadre électoral. Aujourd'hui, maintenant, au-delà d'une simple organisation d'élections, on peut commencer avec ces deuxièmes élections que nous allons organiser à parler d'un cycle électoral normal. Donc bientôt, on ira aux élections dans ces pays comme on va à l'ouverture d'une session d'une chambre parlementaire, n'est-ce pas, à des dates et mois bien fixés. Donc je pense que c'est un rapport à de tels fondamentaux qu'il faut réaliser s'il y a eu avancée ou pas. Et on voudrait bien parler des droits de l'homme dans ces pays. Je crois qu'on a vite oublié que l'histoire de ces pays n'a été écrite qu'en termes de larmes. Les dictons, c'était silence, on tue dans ces pays de 1960 il y a peu, n'est-ce pas? On a parlé que de massacres, on a parlé que d'assassinats politiques, on a parlé que de crimes internationaux les plus horribles. Vous avez, je crois, les rapports de la CNS sur les assassinats politiques qui est édifiant. Vous avez aussi les rapports mapping qui est édifiant. Et donc, nous nous sommes attelés d'abord à rebâtir l'État, à asseoir les institutions démocratiques, à les faire fonctionner de manière à ce qu'on soit en mesure maintenant d'avoir une appréciation sur la gouvernance. Voilà. Bien, nous allons devoir entrer dans la deuxième phase de cette émission qui permet à chacun de vous de réagir au propos de son adversaire politique ou bien à le consolider. Et nous cédons la parole à Moubaki.
Bien, je crois que la théorie, c'est celle que je viens d'entendre ici, où on parle de la séparation des pouvoirs, où on parle de toutes les théories qui puissent exister, qu'on a appelé des fondamentaux. Ça, ce sont des thèmes, des théories, mais la réalité, c'est quoi? Quand mon co-débatteur dit que Kabila a trouvé un État inexistant, c'est Kabila qui a refondé l'État congolais. Je lui rappelle, que quand Mobutu est parti de ce pays, le Congo était uni. Il n'y avait pas de culture de violence de la Kalachnikov. C'est le régime Afdel dont M. Kabila est héréditaire, dont il était d'ailleurs un des facteurs principaux, qui a mené le pays là où nous sommes. C'est l'homme qui met le feu à la maison et qui crie aux sapeurs-pompiers. Le pyromane qui veut se transformer en sapeur-pompier. Donc, M. Kabila, lui, le grand acteur de l'Afdel, nous a plongé dans ce que nous sommes en train de vivre dans ce pays, avec des rébellions qui circulent à travers ce pays, avec des armes qui circulent à travers ce pays, avec une culture de violence, une femme est violée toutes les 40 secondes dans ce pays. Une femme est violée pendant toutes les 40 secondes de ce pays. Et ça, c'est le régime Kabila, actuel, qui a mené ça, les néo-arméniens. Vous dites, vous avez ensuite mis sur pied ce que vous avez appelé une des institutions démocratiques. Mais il n'y a pas d'institution démocratique dans ce pays. Quand vous êtes en train d'instrumentaliser le parquet général de la République, vous parlez de séparation de pouvoir. Quand vous prenez un homme comme Mokia, qui s'est battu sur le plateau de la télévision avec un membre du PPRD, qui est sorti depuis de la prison et qui se délecte à travers la ville, vous faites des individus vos prisonniers propres, comme Coutinho, comme Mokia. Vous parlez de la démocratie. D'ailleurs, le candidat Joseph Kabila a parlé de la gangrène à propos de la justice de ce pays. Une gangrène, on l'extirpe, on l'ampute, on ne soigne pas. Ce sont ses propres termes. Vous avez parlé que nous aurons bientôt des cycles électoraux. Il n'y a pas eu élection en 2006. En 2006, il y a eu une mascarade électorale. Vous ne pouvez pas parler d'élection dans un pays au moment où vous reconnaissez en même temps que nous sommes sous occupation des armées étrangères. Vous parliez d'agression rwando-burundais-ougandaise, vous-même, en 2006. Si en 2006 que vous étiez incapable même de disperser les FDLR comme vous l'aviez fait, ils continuent à contrôler des territoires entiers. Je vous cite le territoire de Savunda, je vous cite le territoire de Moura, mon territoire, je viens de là. Je viens d'assister là-bas à la présence d'une légion étrangère. J'ai dit une légion étrangère à l'est de ce pays. Et vous parlez de cadre ou de bonne gouvernance. Vous n'êtes pas capable d'assurer la sécurité des Congolais. Et vous dites, vous avez mis en place les cadres des institutions et un cadre pour assurer tout ça. Le cadre institutionnel électoral actuel, il est de plus opaque possible. C'est depuis 4 mois que vous nous refusez d'auditer le serveur pour savoir ce qu'il y a dans le fichier. Hier encore, nous de l'opposition, nous étions à la CENI où on nous a interdit de commencer le travail. Interdit. Alors, de quels fondamentaux vous voulez parler? Voilà des faits réels et concrets pour lesquels vous êtes incapables de diriger ce pays.
Je suis obligé d'intervenir, M. Moubaké, pour vous signaler que votre état est parti de plus sur certains. Nous nous tournons du côté de notre invité, Maître Lénine Moulayen. Vous avez la parole, Moulayen.
Oui, je pense qu'il ne faudrait pas, pour porter un jugement sur ce qui se fait dans ce pays, s'arrêter sur des épiphénomènes. Je continue à maintenir, n'est-ce pas, mon assertion selon laquelle ce pays vient de loin. Il ne faut pas que les gens oublient pour ne parler que l'époque de l'avant à l'arrivée de la FDL, puisqu'on en a parlé, mais on agit dans une confusion politique. Ce n'est pas dans ces pays où on criait à tue-tête Kabila et Akaka. Ce n'est pas l'UDPS qui a dit, de par son leader, que Kabila c'est mon frère, je lui ouvre les bras, qu'il vienne à Kinshasa. Oui, c'est quand même ahurissant qu'on puisse renier l'histoire de cette façon-là. On était dans une confusion indescriptible dans ce pays. Et c'est pour dire donc qu'aujourd'hui, l'UDPS est en train, n'est-ce pas, de regretter le départ de Mobutu de la dictature. Ça ne m'étonne pas, puisque n'oubliez pas quand même qu'en 1992, si je ne m'abuse, l'UDPS a participé à la gestion de cette confusion, justement, de juillet jusqu'à décembre. Et donc, elle est nostalgique de cette époque qui a été tout à fait réunie aujourd'hui par tout le monde et dont, curieusement, l'UDPS se souvient en bien. On a parlé d'un certain nombre de cas de violation de droits de l'homme. Je pense que des cas isolés ne peuvent qu'être regrettables, mais sur l'essentiel, je pense qu'aujourd'hui, le cadre, n'est-ce pas, de protection, de promotion des droits de l'homme est complètement assaini. Vous savez, monsieur le journaliste, que c'est depuis 2006 que le pays n'est plus sous surveillance internationale. Nous avons connu ici des cas célèbres d'un certain Gareton, n'est-ce pas, qui était devenu un gendarme de ce pays, de Yulia Motok et consorts. Nous avons connu des cas d'experts indépendants. Et je vous dis que depuis 2008, dans ce pays n'a plus connu une condamnation internationale au niveau du Conseil des droits de l'homme. Alors, doit-on se contenter de ces jugements qui sont faits par des ONG dans des bureaux climatisés, à la lieu et place, n'est-ce pas, d'un jugement de la conscience du monde qui siège à Genève chaque année? Non, je pense que tous les cas qui sont relevés sont des épiphénomènes, et encore que nous pouvons être heureux de constater que tous ceux qui ont été déférés devant les cours du tribunal, qui les prennent en charge, ces tribunaux-là, peuvent avoir des défaillances, mais c'est des systèmes dont nous disposons pour le moment et nous travaillons pour le reformer. Vous savez, par exemple, que puisqu'on en parlait déjà, ce sont les mêmes cours et tribunaux qui ont déclenché un certain nombre quand même de mesures, de répressions et de poursuites de certains auteurs présumés, de malversations financières. Nous aurons le temps de faire les bilans. C'est le même gouvernement qui a dit et décrit aujourd'hui, avec à sa tête, en termes d'exécutif, le président Kabila, qui a révoqué 5 ministres. Le terme révocation est banalisé aujourd'hui, alors que c'était une denrée rare, n'est-ce pas, au cours de la période où l'UDPCI a géré. Vous savez que dans ce pays, il y a au moins 88 injonctions de poursuite qui ont été adressées au procureur général de la République par le gouvernement.
Le débat.
Ok, le temps. Bien, nous arrivons à notre troisième étape de cette émission qui vous accorde chacun 4 minutes. Donc, l'étape que nous appelons échange ordonné. Vous allez parler un à un et qui tangera vos émotions politiques. Nous suivons le même ordre. Pendant que vous votez, vous avez la parole.
Oui, je commence d'abord par lever la confusion là, de la gestion de M. Tshisekedi. M. Tshisekedi a été un exemple de bonne gestion. Pendant 3 mois, il a démonétisé une monnaie qui faisait des ravages sur le plan du pouvoir d'achat, tout le monde se rappelle, et il a refusé des salaires à la hausse. Mais ce que je voudrais souligner s'agissant de la dynastie Kabila actuellement en place au Congo, quand M. Tshisekedi avait déclaré que Kabila était son frère et qu'il vienne, et quand il a vu comment Kabila est arrivé au pouvoir à Kinshasa, comment on l'a installé au pouvoir à Kinshasa, le 23 mai, une semaine après l'arrivée de M. Kabila, M. Tshisekedi a demandé à M. Kabila de remettre, de faire envoyer chez eux les Africains qui l'avaient accompagné. Et que cela devait nous donner la facture, nous Congolais, que nous allions payer. Il a été arrêté, relégué dans son village pour délit de faciès. Mais nous avons eu un an après, le 2 août, non en plus, quand ça bardait ici à Kinshasa, c'était le même Rwandais, Jean Kabarebe, qui était le chef d'état-major général de l'armée congolaise. Et tout ce qui se passe dans ce pays, dans lequel on n'a jamais fait le recensement de la population, dans lequel M. Kabila et son régime, 11 ans maintenant, ils refusent l'identification de nationaux. Ils savent pourquoi. Donc, M. Tshisekedi ne peut pas être mêlé à cette gestion-là. Je relève aussi ce qu'il appelle, en banalisant, des cas isolés de violation. Mais je vous apprends que depuis que l'AFDEL est entré dans ce pays et M. Kabila gère ce pays, nous avons chaque trimestre l'apparition des rapports sur les droits de l'homme et le Congo est toujours mal classé. Toujours, ce n'est pas des cas isolés. Et vous ne pouvez pas parler des cas isolés quand des femmes entières sont violées. Des femmes entières sont violées chaque jour. Je ne sais pas si vous savez ce qui se passe à l'Est. Moi, je viens de Bukavu, j'étais à Uvira, j'étais à Makobola, j'étais à Mboko, j'étais à Baraka. Quand je vous parle d'une légion étrangère armée, un pays qui se dit bien géré, bien gouverné, ce n'est plus un pays, ça, le Congo. Et je comprends d'ailleurs pourquoi le sous-secrétaire d'État américain, l'ancien sous-secrétaire d'État américain, disait que l'Est du Congo, le Nord et le Sud Kivu n'appartenaient plus au Congo. Il a dit publiquement, sur les antennes d'une radio périphérique, ça veut dire que tout cela échappe aujourd'hui, et sur le plan politique, et sur le plan sécuritaire, et même sur le plan financier. tout le content de Walikale est en train de partir, au vu et au su de ce régime de Kinshasa, qui n'est pas seulement complice, qui est coacteur dans ce qui se passe dans cette partie du pays. Vous avez parlé du rapport Mapping, mais vous avez bien fait de le citer parce que ce rapport-là vous met, vous, la majorité de votre pouvoir, devant la barre. 617 cas de violation flagrante de droits humanitaires, passibles d'ailleurs devant la Cour pénale internationale, pour lesquels, et le gouvernement de Kinshasa, parce qu'il n'y a pas que les rebelles, vous êtes partie des belligérants, et le gouvernement de Kinshasa et ses rebelles sont coupables, présumés, en attendant d'ailleurs que l'UDPS, à partir du 7 décembre, accède au pouvoir, ce que je vous confirme, nous allons remettre de l'ordre dans cette affaire-là. Et je termine en vous disant ceci. Vous ne pouvez pas malheureusement nous parler de la bonne gouvernance parce que vous c'est la culture de la Kalachnikov. Vous ne pouvez pas faire mieux que ça.
Bien, merci beaucoup, Vanaté Moubaké. Nous allons nous tourner du côté du maître Naimi Milania. Vous avez la parole.
Oui, encore une fois, évidemment, je souhaiterais commencer par relever quelques contre-vérités qui ont été dites. Vous savez, le rapport Mapping, il pouvait bien nous incriminer, mais il est même venu trop tard, puisque ce n'est pas la volonté du gouvernement, de l'exécutif dirigé par le président Kabila, que la situation générale sur la RDC a été déférée devant la Cour pénale internationale en 2004. Ce n'est pas la volonté du président Kabila. Et donc, si la Cour pénale internationale trouvait à rédiger sur, n'est-ce pas, une part quelconque qu'aurait pris notre régime dans ce qui s'est passé, mais cette Cour pénale internationale se serait assumée. Et on a parlé tout à l'heure de la situation à l'est du pays, des troupes qui sont venues de l'autre côté. Je crois qu'il ne faut pas, encore une fois, distiller de compte l'histoire de ces pays. La situation de l'est, on sait d'où elle est venue. Et après le génocide rwandais, de par la volonté de la communauté internationale, on a permis à des cohortes de FDLR et des troupes armées, des forces régulières rwandaises d'entrer dans ce pays. Et depuis lors, des efforts ont été fournis, tous les gouvernements ont demandé que la communauté internationale, qui est à l'origine de cette situation, se mobilise efficacement pour y mettre fin. Mais nous avons des résultats mitigés, évidemment, mais il y a des progrès. Et c'est donc un combat commun. Et nous devons nous souvenir que M. Tshisekedi, dans le cadre de l'ASD, qu'on soit à un certain moment, avait trouvé dans le Rwanda un partenaire. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut, n'est-ce pas, considérer que l'enfer est de l'autre côté, et que du côté de l'UDPS, où il y a les chefs. Pas du tout. Ils sont réprochables, ne sont même plus que nous. Et je pense qu'on a parlé également de... la gestion de Tshisekedi, non. Mais justement, si Tshisekedi était un modèle de gestion, pendant les 4 mois, le peuple congolais aurait été capable de voir ce dont il était capable. Et M. Tshisekedi a mis en prison, du moins à déférer au niveau des parquets de la République, combien de fonctionnaires indélicats pour corruption. M. Tshisekedi a libéré les salaires de combien de mois de fonctionnaires quand il était à la tête, n'est-ce pas, du gouvernement de ce pays. Il ne faut pas qu'on se moque du peuple congolais. Il faut plutôt voir la bonne direction qu'a prise le pays aujourd'hui. Depuis que Joseph Kabila est là, il a réunifié le pays, il a restauré la démocratie, il a mis sur pied un programme, les 5 chantiers de la République, qui redonne l'espoir à ce pays. Les infrastructures de base sont reconstruites et maintenant on va aller dans la modernisation du pays. Mais il n'y a pas pur hasard que celui qui ne veut pas voir, et nous aiderons l'UDPS à ouvrir les yeux pour voir ce que toute la population voit. Il ne faut pas qu'on se moque quand même de la population. La population sait d'où elle vient, où, à quel niveau elle se trouve, et où est-ce que Joseph Kabila est en train de la ramener. J'ai bien parlé des situations décriées comme étant des épiphénomènes, puisque, évidemment, tout en étant regrettable, au moins il y a des mécanismes de prise en charge de ces situations. La situation de ce BSI a été citée, a été prise en charge par les juridictions de ce les pays, et au premier degré, je crois, les jugements sont tombés et on est allé en appel. La situation de Montia, la situation de Coutinho, toutes ces situations ont été
bien en place. Je suis obligé d'intervenir pour vous signaler que nous allons jouer à notre dernière étape de cette émission qui demande à chacun de vous de donner la conclusion à 1000 minutes.
Je vais tout simplement rectifier le gros mensonge qui a toujours été le cheval de bataille du PPRD, la visite de Tshisekedi à Kigali. M. Tshisekedi est allé à Kigali dans le cadre de l'AFD après avoir été à Harare, pilier du gouvernement de Kinshasa, pour que les gens reviennent au dialogue intercongolais. C'est grâce à Tshisekedi que nous avons eu l'accord global inclusif, dont sont bénéficiaires aujourd'hui les gens du PPRD et la réunification du pays. Si nous n'avions pas fait ça, nous, de l'UDPS et Tshisekedi, qui saurait dire aujourd'hui quelle serait l'image du pays? C'est donc Tshisekedi qui a évité au Congo la partition. Et j'ajoute, entre Tshisekedi et Kabila, qui est plus proche du Rwanda? Les Congolais eux-mêmes vont donner la réponse.
Merci beaucoup, Mouvaké Valentin. Maître Némi Milania, à vous la conclusion.
Le président de la République à Kinshasa a dit que on a affaire à un arbitre qui est tout à fait expérimenté. Le peuple congolais sait d'où il vient, je le répète, où le président Kabila l'a ramené jusqu'aujourd'hui et où est-ce qu'il est en train de le conduire. Il faudrait qu'il fasse attention à des vendeurs d'illusions qui ont eu la possibilité de gérer ce pays et qui n'ont fait aucune démonstration de leur capacité, n'est-ce pas, de bonne gouvernance. Je pense que les chantiers, ces chantiers entrepris sont en marche et vont conduire la population congolaise au progrès, n'en déplaise tous ceux qui créent toutes sortes d'astuces, n'est-ce pas, pour mettre fin à ces progrès. C'est donc la loi de ceux qui aiment le progrès par rapport à ceux qui sont contre le progrès qui est en jeu pour le moment.
Bien, c'est avec cette dernière intervention que nous allons devoir mettre fin à cette émission qui a réussi Maître Néhémy Milania, le conseiller national du PPRD, Valentin Moubaké de l'UDPS, le conseiller politique de Tshisekedi. Merci également à ceux qui étaient avec nous pour cette émission qui a été supervisée par Leonard Moulamba, qui des sons réalisés par Dieudonné Nyangasa. Dounia Mokonda Milemba vous l'a présenté. Merci beaucoup. Au revoir.
Thank you.